Viviane Thivan, donc on se retrouve pour une troisième partie où on aime bien parler un petit peu plus de l'invité, savoir ce qu'il est ou ce qu'elle est, quels sont les goûts, les goûts et les couleurs. Mais première chose, donc, vous êtes donc membre ELV, donc écologiste. Vous savez l'étiquette qu'on a tendance à coller aux écologistes en France, et peut-être pas seulement d'ailleurs, de doux rêveurs. Comment vous, alors qui êtes justement, qui avez été journaliste scientifique, le contraire du doux rêve, j'imagine, comment percevez-vous ces étiquettes-là?
Moi, je pense que c'est des étiquettes qui ne devraient plus déjà exister. Je pense que l'écologie a beaucoup évolué. Il y a vraiment une pensée politique qui est en train d'apparaître. Et puis, c'est vrai que pendant très longtemps, les écologistes, c'était des militants anti-projet. C'est comme ça, souvent, qu'on les présentait. C'était des garde-fous, des gens qui essayaient de protéger.
Il reste cette étiquette de gauchiste. Vous savez que ce qu'on disait, les pastèques, hein, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur.
Alors moi, je suis verte intégralement. Non, mais effectivement, il y a beaucoup d'étiquettes, il y a beaucoup en fait d'images et de clichés qu'on nous a collés et qu'on continue à nous coller. Je pense qu'aujourd'hui, les écolos, ils sont différents en fait de tous les autres groupes politiques. C'est un groupe qui a un cap, c'est-à-dire il y a vraiment une urgence, il y a vraiment une envie de faire cette transition, d'essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y a une orientation claire avec des mesures à court, moyen, long terme. Et du coup, on est plus pragmatique en fait que ce qu'on nous donner comme image.
Justement, ça c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a eu un vrai changement? Parce que les écologistes, ils sont quand même sur la place de la vie politique française depuis au moins 3 décennies, hein, avec des hauts et des bas. Bon, est-ce qu'il y a eu, d'après vous, un vrai changement de comportement?
Moi, je le trouve. Je trouve qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent vers l'écologie, moi, je m'inclus dans ces personnes-là, c'est des gens qui étaient souvent des militants associatifs. Associatifs qui, dans leur profession, pouvaient avoir un engagement lié à l'écologie, à l'environnement, ou pas du tout, qui peuvent devenir parents et tout d'un coup prendre la mesure du monde qu'on est en train de préparer à nos enfants et se dire que ça, c'est pas acceptable. Dans l'histoire, il y a eu des moments, je pense notamment au trou d'ozone, il y a eu des moments où, collectivement, on s'est dit qu'il y avait un problème qu'on devait solutionner, sinon on ne survivrait pas. C'est vrai que ça paraît un petit peu radical de dire ça, mais la réalité, c'est quand même ça. Et moi, en tant que journaliste scientifique, j'ai vu ça. J'ai vu la marche du climat, j'ai vu...
Oui. Alors le trou d'ozone se porte mieux.
Oui, mais justement, il faut le dire. On a réussi. C'est-à-dire que quand on a compris que c'était gravissime, qu'on a isolé la cause, c'est-à-dire
c'est le CFC,
oui, et puis donc qu'on a trouvé des solutions pour arrêter de les émettre, et ben tout d'un coup on a réussi à régler ce problème-là. Il faut se souvenir de cet exemple historique,
c'est-à-dire donc ça, qu'aujourd'hui c'est un succès écologiste.
Ben, c'est un succès mondial, humain, c'est-à-dire que aujourd'hui ce qu'on nous dit qu'on est des utopistes, mais je pense qu'en fait on est des réalistes. J'ai été journaliste scientifique. La seule chose qui m'intéresse, c'est les faits et la raison. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de se cacher de la vérité. Il faut essayer de, mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent pour pouvoir adapter, peut-être ralentir ce réchauffement climatique, ça, ce serait vraiment l'idéal, mais aussi être en capacité de s'adapter par rapport aux pollutions, par rapport aux crises climatiques, par rapport à la perte de biodiversité. On ne peut plus vivre comme si on était hors sol. C'est quelque chose en fait qui est extrêmement important. Et je pense que cette volonté d'agir, cette réponse à l'urgence que nous, on veut apporter, en fait, c'est notre moteur. C'est pas un moteur de contre, c'est un moteur de pour un avenir. Pour un avenir qui est possible et différent et souhaitable. Et ça, je pense que en fait, cette sincérité-là, elle habite maintenant les écologistes qui arrivent au pouvoir en ce moment ou qui rentrent dans les groupes militants. Mmh. Et c'est donc, je pense, une nouvelle vague d'écologistes.
Mmh. Et alors, personnellement, vous découvrez alors la vie politique, le pragmatisme, la conquête du pouvoir. Et vous avez raison, il faut conquérir le pouvoir pour l'obtenir et l'avoir. Est-ce que ça change un peu le regard que vous avez sur les choses, sur la vie? La vie politique, c'est pas la vie tout court, quand même.
Non, c'est pas la vie tout court, mais c'est quand même une vie qui est faite réellement par des humains. Ah et oui. C'est vrai que, mais ça paraît bête de le dire, mais c'est toutes les, Il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'humain qui se passent, et ça, c'est intéressant. On voit aussi, quand on est à l'échelle politique, qu'il y a des choses qu'on arrive à arrêter alors qu'on n'aurait pas pu le faire, en fait, à l'échelle associative. Donc, ça donne envie de s'investir. Après, évidemment, c'est des lourdeurs, des réunions, énormément de temps. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut dire. C'est que l'investissement politique, c'est quelque chose qui est chronophage, mais je pense qu'il peut vraiment... permettre de faire changer le système. Et c'est pour ça que j'invite réellement les gens qui s'intéressent à ces questions-là à s'investir, à mettre les mains dans le cambouis, à se présenter, quelles que soient leurs opinions, pour pouvoir justement faire vivre cette démocratie.
Oui, c'est véritablement un engagement. Le mot n'est pas galvaudé.
Oui, non, effectivement.
Oui. Et justement, on dit, et certains le déplorent, que beaucoup de gens, alors on dit les jeunes, je ne sais pas ce que ça vaut comme qualificatif, mais n'ont plus envie de s'engager, n'ont plus trop envie. Alors là, justement, vous êtes en train de dire qu'il y a besoin de s'engager et de faire certains renoncements, d'ailleurs.
Oui, alors déjà, je pense qu'il y a toute une génération là qui est en train de s'engager. Et qui est en train de s'engager parce qu'ils se rendent bien compte qu'il va falloir faire bouger les lignes. Et ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a des choses, quand même qu'il faut réussir à repenser. Souvent, on nous a collé, il y a pas très longtemps, cette idée qu'on était des Amish, que les écolos voulaient revenir à la bougie. C'est pas du tout vrai. Mais il y a des choses qui sont complètement illogiques. Aujourd'hui, on sait qu'il faut réduire la dépense énergétique. On sait qu'on va devoir essayer de diminuer, le transport automobile. Et en même temps, quand on regarde dans la rue et qu'on se balade, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des SUV partout, des grosses automobiles.
Voilà, les SUV, c'est ces gros véhicules diesel.
Qui rentrent même plus dans le garage des habitations. Enfin, je veux dire, il y a un moment, sans parler de retour en arrière, il y a un moment, il faut se poser des questions concrètes. Il faut aller vers l'éducation populaire. Ça ne veut pas dire donner des doctrines. C'est qu'à un moment, les gens, ils doivent essayer de se représenter les conséquences de leurs actes. Et effectivement, avec ce type de véhicule, on ne va pas vers une sobriété énergétique. Alors, si, ça peut être un choix de société de ne pas aller vers une sobriété énergétique.
Mais il faut l'assumer, alors.
Exactement. Il faut l'assumer. Il faut essayer, du coup, de réfléchir à des solutions qui permettent ce développement tout en évitant justement ce réchauffement climatique. De mon point de vue, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que soit on fait des choix simples et sincères pour réduire ce dérèglement climatique, soit on ne les fait pas, mais dans ces cas-là, on en assume les conséquences. Et personnellement, je n'ai pas envie que moi ou que mes enfants les assument pour des SUV.
Et alors, sur cet exemple justement du SUV, bon, si ça a pris auprès de beaucoup de gens, c'est un effet mode. C'est venu des États-Unis. D'ailleurs, SUV, c'est un sigle américain. Bon, c'est venu, ça a pris chez nous. Ça veut dire qu'il y a la mode et ses effets, alors bons ou mauvais. Comment voyez-vous justement cette possibilité de lutter contre des modes, même si elles sont franchement mauvaises?
Moi, je pense que il faut revenir à la concertation. Il faut refaire confiance aux gens, en fait, bizarrement. Je pense que si jamais on discutait 5 minutes, par exemple, de notre consommation énergétique, qu'on essayait de la poser sur un papier, que chacun en devienne responsable, finalement, puisse faire ses choix individuels en fonction de choix collectifs, eh ben, peut-être que ça, on aboutirait à des solutions différentes. Aujourd'hui, il y a une décorrélation entre finalement nos envies, nos besoins. Est-ce que la personne qui a acheté un SUV est beaucoup plus heureuse que quelqu'un qui a une voiture plus petite? Je suis pas persuadée. Alors peut-être que j'ai tort. Mais et à un moment, il faut aussi se rappeler de qu'est-ce qu'on cherche à faire collectivement. Donc je pense que au-delà de suivre des modes et de suivre des volontés de marketing et d'entreprises et de publicitaires, parce que finalement, c'est ça, ces modes-là, c'est comment est-ce que les publicitaires arrivent à manipuler aussi l'opinion publique pour vendre davantage et davantage et davantage. Il y a un moment, je pense que les citoyens doivent pouvoir aussi faire la part des choses et puis en toute conscience faire ses choix. Toute conscience, ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils puissent avoir en tête tout le reste, c'est-à-dire la conséquence. Comme quand on achète des vêtements très peu chers dans des marques que
savoir
je ne citerai
pas. Savoir d'où ça vient et comment ça a été fait.
Et se poser la question avant d'acheter 3 fois un débardeur qu'on a déjà, est-ce que vraiment on en a besoin ? C'est peut-être de la sobriété, mais moi je pense que c'est plutôt du bon sens. Et c'est de se dire qu'on peut plutôt facilement en fait reprendre les rênes de notre société si collectivement on se pose les bonnes questions et qu'on réapprend à en discuter peut-être.
Et arriver justement à ce niveau de conscience, faire parvenir à ce niveau de conscience, c'est votre, vous avez le sentiment que c'est votre mission, les écologistes d'aujourd'hui ?
Je ne sais pas si c'est notre mission, c'est notre fonctionnement. C'est-à-dire que ce soit chez les Robins ou chez Europe Écologie, on est plutôt un mouvement libertaire où il y a une grande liberté d'expression. Alors c'est notre défaut hein, aussi, mais c'est aussi notre qualité. C'est-à-dire qu'à un moment, sur une question précise, on est capable d'écouter différents points de vue et d'essayer de façon assez pragmatique de trouver une solution, la meilleure, en respectant, on va dire, le positionnement de chacun. Et c'est pas quelque chose qui tombe d'en haut, c'est quelque chose qui est construit horizontalement. Et je pense que c'est une chance et c'est peut-être une façon de travailler qui est une façon d'avenir, quoi.
Mais ça, c'est remettre en cause le système français centralisé et jacobin. Hyper centralisé, d'ailleurs.
Bah, je pense que ça fait des années qu'on aimerait le remettre en cause, ce système-là. Parce qu'il y a plein de décisions qui sont pas du tout adaptées, finalement, au territoire. On le voit avec les impôts qui échappent de plus en plus aux collectivités locales. Maintenant, les collectivités locales reçoivent de plus en plus de dotations de l'État. Ça veut dire qu'elles sont quand même dépendantes de cet État. Je pense que c'est peut-être une erreur, dans le sens où c'est au local qu'on trouvera les meilleures solutions, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour le changement climatique, parce que c'est vraiment un échelon hyper pertinent sur lequel on peut faire beaucoup, 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 que ce soit pour le social. Et je pense qu'il faut refaire confiance aux gens, faut leur redonner les rênes pour qu'ils soient en capacité de pouvoir développer des stratégies qui soient adaptées à tous les défis qui arrivent. Parce que là, on est en train de vivre une crise sans précédent. Derrière, il y a cette crise climatique qui va, si on continue comme ça, s'accentuer. Il va falloir être agile, il va falloir trouver des décisions, il va falloir changer nos modes de pensée, oui.
Un dernier point que j'aimerais savoir, Viviane Thivant, quand on est écologiste, par rapport à ces nouvelles modes dans la façon de se nourrir, par exemple le bio d'une part, mais les gens qui sont sur les logiques de vegan, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Mm-hmm. Oui. Enfin, il y a les végétariens, les véganes.
Les végétariens ou les véganes. Quel est votre regard là-dessus ? Parce que certains, on a l'impression aussi que certains tombent vite dans l'excès et dans le sectarisme.
Ben, je pense qu'il y a des excès partout. Ceci dit, donc moi je suis ni végétarienne ni végane. Je comprends la démarche jusqu'au boutiste de certains, mais je pense que c'est pas du tout quelque chose de dogmatique. Encore une fois, chez nous, oui, il faut réduire la consommation de viande. Ça c'est un fait. On en mange beaucoup trop. Depuis un siècle, je connaîtrai pas le chiffre comme ça de tête, mais on a multiplié la consommation de viande. Si tout le monde mangeait autant de viande que nous, effectivement, on aurait un gros problème planétaire. Donc oui, il faut rationaliser. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut pas dire qu'on est contre la viande. Ça veut dire que peut-être qu'il faut manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Peut-être qu'il faut repenser les élevages de façon à pouvoir respecter effectivement le bien-être animal. On n'est pas obligé de faire des usines à animaux comme ça. Je pense qu'il faut repenser, encore une fois, essayer d'éduquer, d'essayer de se poser la question de ce qui est important, d'avoir une stratégie et ensuite, j'ai envie de dire d'être raisonnable dans le sens où, oui, peut-être que manger matin, midi et soir de la viande qui vient d'élevage en batterie, ça n'a pas de sens. Et peut-être que c'est important de se le dire et de simplement revoir ça.
Voilà. Bien, c'est là-dessus qu'on va conclure sur ces notions alimentaires, Viviane Thivant. Merci en tout cas d'être venue nous apporter la bonne parole écologiste. Je rappelle que vous êtes conseillère communautaire et municipal ou dans l'ordre municipal et communautaire, et que vous ne serez pas, vous personnellement, candidate au départemental, mais qu'il y aura sur les listes, dans les binômes, des écologistes de la Narbonnaise.
Et que ce sera des personnalités incroyables, et moi je suis très très fière de l'équipe qu'on présente.
Alors on brûle d'impatience de connaître leur nom. Merci à vous. Les prochains invités, alors on va recevoir pas mal de maires. Jean-Louis Rio, qui est le maire de Bages, qui est responsable de l'urbanisme au Grand Narbonne. Un petit peu plus tard, le responsable des transports au Grand Narbonne, Jean-Marc Jansana. Le sénateur Sébastien Pla est prévu également. Le maire de Port-la-Nouvelle et son port. Et Didier Codorniou, premier vice-président de la région, pour parler des régionales. Voilà quelques noms lancés à la volée parmi les prochains invités. Merci encore, Viviane Thivant, et aux
auditeurs.
À la semaine prochaine.
Thank you.